C'est bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va, très bien. On l'a chanté tout à l'heure, il n'y a vraiment personne comme Jésus. On l'a chanté. Mais, et peut-être que les enfants peuvent m'aider là-dessus, moi, quand j'étais à la faculté, quand j'étais à l'école, j'avais un ami, parce que j'étais en Espagne, son nom de famille, c'était González. Jusque-là, ça va. Mais son prénom, c'était Jesús. Ça veut dire quoi, Jesús? Quelqu'un sait? Tu sais? Ah, c'est joli, ça. Mais non, Jesús, en espagnol, ça veut dire Jésus. Ça veut dire Jésus. Mais c'est vrai qu'il est ressuscité, Jésus. Alors, s'il y a d'autres Jésus, pourquoi est-ce qu'on chante qu'il n'y a personne comme Jésus, si moi, j'en connais déjà deux? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Jésus-là? Est-ce que quelqu'un le sait? Ah, il y a une main qui se lève là-bas. Lui, il est puissant et nous, on n'est pas puissants. Oui, ça, c'est vrai que ça fait quelque chose de particulier pour ce Jésus-là. C'est vrai que le Jésus que je connaissais n'était pas puissant. Autre chose, oui? Jésus, maintenant, il est dans le ciel. Oui, c'est vrai. Le Jésus que je connais, il vit en Espagne. C'est vrai, c'est une différence. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que Jésus est tellement particulier? D'autres idées? Non? Ah, il y a une main, là, oui. Alors, Jésus est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus, on dit que c'est le Fils de Dieu. Alors, il est le Fils. Mais c'est vrai, il est Dieu. Ça fait quelque chose de très différent aussi par rapport à tous les autres. Personne ne peut dire « moi, je suis Dieu ». Jésus, il peut le dire, lui. Alors, je vais vous raconter une histoire. Si vous avez envie de vous approcher, vous pouvez. Sinon, il va falloir lever les yeux bien haut parce que, voilà, je suis au milieu, je vais essayer de montrer ça à tout le monde. C'est quelque chose qui s'est passé il y a bien, bien longtemps. Au tout début, il y avait Dieu. Bon, je l'ai représenté comme ça. On peut faire mieux, sans doute. Mais il y avait Dieu. Et Dieu a créé le monde, et il a créé notamment l'être humain, les hommes et les femmes. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'on dit qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, hein. Mais ce n'est pas la même chose non plus quand même, hein. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Et puis la Bible dit aussi que Dieu, il a mis son souffle, son esprit dans l'être humain. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très différent par rapport aux animaux, parce que nous sommes des êtres spirituels. On peut être en relation avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme a commencé à parler à Dieu, et puis Dieu a parlé à l'homme, et les choses se passaient très bien comme ça. Ça se passait très bien dans ce jardin, le jardin d'Éden. Ça se passait très bien jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne parler à l'être humain. Est-ce que quelqu'un sait qui est venu parler à l'être humain à la place de Dieu? Il y a plein de monde là. Allez-y, le premier qui dégaine. Ève est venue parler à l'homme, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas à Ève que je pensais, mais c'est vrai. Quelqu'un d'autre?
Un serpent.
C'était qui ce serpent?
Satan.
Oui. Toi, tu le savais, je le sens bien, tu avais envie de le dire. Satan est venu parler à l'homme. Et il est venu lui dire, en gros, il est venu lui dire, ce que dit Dieu, c'est pas vrai. En fait, Dieu, il vous aime pas. Il vous aime pas vraiment parce qu'il vous a interdit quelque chose. Et il vous a dit que c'était pour votre bien. Il vous a dit que si vous mangiez du fruit de l'arbre de la connaissance, eh bien, vous mourriez, mais c'est pas vrai. Et l'homme et la femme ont cru ce que disait Satan. et ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Cette parole était rentrée dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un veut boire ce verre? Quelqu'un? Ah, il y a des volontaires là-bas. Tu es sûr? On va essayer, on va voir. Vous êtes sûr? Ah, vous avez soif? Vous avez soif, en fait. D'accord, très bien. Eh bien, on vous donnera de l'eau après. Mais celle-ci, ce n'est pas une bonne idée. Hein. Elle n'est pas belle. Hein. Elle est toute sale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce n'était plus possible d'être en relation avec Dieu. Parce que Dieu, il est pur. Dieu, il est amour. Dieu, il est sans tâche. Il ne peut pas supporter de recevoir ça. Alors, il s'est passé une chose, c'est que comme Dieu, c'est le Dieu de la vie, le Dieu vivant, c'est la source de toute vie, eh bien, l'homme, l'être humain, a été condamné à mourir. Et ça, c'est très triste. Ça aurait pu s'en arrêter là. Après tout, Dieu ne nous doit rien. Dieu est le Créateur. Mais Dieu n'a pas voulu que ça s'arrête là. Alors, il s'est incarné, on dit. Il s'est incarné, il est venu sur la terre. Comment est-ce qu'il est venu sur la terre? Est-ce que quelqu'un le sait? C'était qui Dieu sur la terre? Il y a quelqu'un là-bas. Ouais. Tu voulais dire Jésus aussi? Non? Joseph. Ben non, c'était Jésus. C'était Jésus qui est venu sur la terre. Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné sur la terre. Il est venu, on dit, comme le deuxième Adam. Parce que c'est vrai, il ressemble quand même au premier, hein, avant qu'il accepte la parole de l'ennemi, de Satan. Le premier Adam ressemblait aussi à Jésus. Et Satan, il est venu aussi voir Jésus. Il lui a dit, « Oh, mais si tu m'écoutes, je te donnerai tous les royaumes de la terre. » Mais Jésus, il ne s'est pas fait avoir. Il ne s'est pas fait avoir. Il est resté, on dit, sans péché. Il ne s'est pas fait avoir. Et il a fait mieux que ça. Il a dit, « Moi, je vais mourir à la place de l'être humain. Pour que l'être humain, il puisse vivre. » Donc Jésus, qui n'avait rien fait de mal, est mort à la place des hommes pour que nous, on puisse à nouveau rentrer en relation avec Dieu. Mais on se dit, ah oui, mais là, il y a quand même un problème. Non, c'est pas très beau, c'est pas possible. Alors des fois, on essaye, comme ça, d'enlever notre péché, comme ça, comme on peut. On se débat, on bataille, on essaye, comme ça. Mais ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Alors, Dieu a dit, si tu te repens de ton péché, si tu le regrettes profondément, si tu t'en détournes, si tu dis, moi, je ne veux plus faire ça, c'est terminé, maintenant, je veux suivre Jésus, et si tu te fais baptiser, alors tu auras le pardon des péchés, tu seras pardonné, donc Dieu pardonne ça, et tu recevras l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il fait quand même quelque chose d'assez fantastique, c'est qu'il vient nous purifier. Alors, il en reste toujours un petit peu, déjà parce qu'on est toujours un peu pécheur, mais aussi parce que, contrairement à mon péché, Dieu est un puits sans fond, une source de vie sans fond. Et plus nous nous imprégnons de lui, plus le péché rétrocède dans notre vie. Voilà pour l'histoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce que nous allons chanter. Nous allons nous lever et chanter et célébrer cette réalité-là.
Qu'il a donné que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré. Son amour quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Parce que notre chanteuse est aussi à la technique et que du coup je vais avoir besoin d'elle bientôt. On a chanté « Par son sang précieux, il m'a libéré ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sang qui nous libère ? Ce que la Bible nous dit et qui va s'afficher bientôt dans mon dos, normalement, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est ce qu'on reçoit en rétribution de nos œuvres. Ce qu'on reçoit pour notre péché, c'est la mort. C'est ce qu'on a vu aussi avec cette illustration. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, mais il n'invente rien, il ne fait que redire ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ézéchiel, par exemple, quand il dit en Ézéchiel 18:4, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu, dans l'Ancien Testament, a voulu montrer que le péché mène à la mort. Et donc, pour montrer que le péché mène à la mort, et c'est à la fois d'ailleurs une conséquence de notre péché, quand on est séparé du Dieu de la vie, eh bien nous mourrons spirituellement, nous allons vers la mort, et c'est aussi le résultat du jugement de Dieu. C'est le regard qu'il pose sur notre péché mérite la mort. Et Dieu est juste. Et donc, selon sa justice, quelqu'un doit mourir pour le péché. Et le pécheur doit mourir pour son péché. Mais Dieu ne veut pas que nous mourions. Il veut que nous vivions. Il veut que le méchant se repente et qu'il vive. Alors, dans l'Ancien Testament, il a proposé que ce soit un animal. Un animal qui viendrait mourir à la place des pécheurs. Passer la diapo. Cet animal innocent, il mourrait à la place des coupables. Alors d'abord, le prêtre prenait un agneau et puis il posait sa main sur cet agneau comme pour dire que cet agneau le représentait lui parce que lui déjà était pécheur. Et donc cet agneau qui n'avait fait de mal à personne mourrait à la place du prêtre. Puis ensuite, il en prenait un deuxième. Il posait sa main sur lui à nouveau pour dire que cet agneau représentait l'ensemble du peuple, et cet agneau, qui n'avait fait de mal à personne, mourait à la place du peuple. Mais il y avait deux soucis. Le premier, c'est que pour représenter parfaitement un être humain, il ne faut pas un agneau, il faut un être humain. Et le deuxième, qui est peut-être plus grave encore, c'est que le prêtre, comme le peuple, péchait chaque jour. Et donc, ce sacrifice, ces sacrifices étaient à refaire chaque jour. Et non seulement ces sacrifices-là, mais il y avait aussi des sacrifices de communion, des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices de consécration. Et donc, dans le temple, le sang était versé inlassablement. Dans le temple, ça sentait le sang, ça sentait la chair brûlée, parce qu'on y faisait des holocaustes, ces sacrifices étaient tous brûlés. Donc, ce n'était pas un endroit très agréable, le temple. Et les choses se sont passées comme ça pendant des siècles, jusqu'à ce qu'arrive celui qui avait été annoncé par les prophètes. Et on va écouter la lecture du chapitre 53 d'Ésaïe, qui annonce tout ce que je viens de vous dire.
Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.
Si vous voulez vous abonner à Jésus, Ésaïe parle ici du Messie, évidemment, et qui tend l'oreille reconnaît bien de qui il s'agit, puisque Jésus a accompli cette prophétie jusque dans les moindres détails. Jésus est le sacrifice parfait. Il n'est pas un agneau, il est un homme, comme nous, auquel nous pouvons nous identifier, et il est sans péché, de telle sorte que lui n'a pas à mourir pour ses propres péchés, et il peut donc mourir pour les nôtres. Et quiconque croit cela n'est plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour qui est en Jésus-Christ. Quiconque place sa foi en Jésus reçoit l'Esprit Saint et voit sa vie transformée. Voilà pourquoi il n'y a personne comme Jésus, parce que personne d'autre n'a fait ça. Jésus, dans son grand amour, est mort pour nos péchés, son sang a été versé et il nous a revêtus de sa justice. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ce chant qui dit « Ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours entendus sur la terre ».
Purifié.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vais inviter les personnes qui ont été désignées pour le service de la Sainte Cène à s'approcher et à se préparer. Et je vais d'abord rendre grâce. Seigneur, nous voulons simplement obéir à ce que tu nous as demandé de faire, à savoir nous remémorer ton sacrifice. Et quel beau jour aujourd'hui pour le faire, pour le vivre. Seigneur, que ce temps soit un temps béni pour chacun. Un temps où tu viens parler à notre cœur. Un temps où nous pouvons peut-être prendre un peu plus conscience que d'habitude de ce que tu as fait pour nous. Du sacrifice de ton Fils à la croix, Seigneur, pour que nous puissions vivre et à nouveau être en relation avec toi. Nous savons que si nous sommes autour de cette table, c'est par ta grâce. C'est grâce au sang de Jésus qui a été versé à la croix. C'est par ses mérites à lui, non par les nôtres. C'est un cadeau que tu nous fais. Nous t'en sommes reconnaissants. Jésus a demandé à ses disciples de se souvenir de lui en prenant le pain qui symbolise son corps meurtri et puis le fruit de la vigne qui symbolise son sang versé. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, vous verrez que le pain qui vous est proposé, c'est du pain sans levain. Parce que c'est ce type de pain que Jésus a mangé avec ses disciples le soir de son arrestation. Il a mangé ce pain parce que ce soir-là, il célébrait la fête juive de la Pâque. C'est une fête, on l'a vu dans le petit dessin animé, qui commémore la sortie d'Égypte, ce moment où le peuple était esclave pendant 400 ans là-bas en Égypte. Et quand il a enfin pu s'enfuir, il n'avait évidemment pas le temps d'attendre que la pâte du pain lève. Et donc, il est parti avec ce pain de misère. Et Jésus, en associant sa mort à la Pâque juive, nous dit qu'il est, lui, le grand libérateur du peuple de Dieu. C'est lui qui nous libère de tous les lieux d'esclavage de nos vies, à commencer évidemment par celui du péché qui nous maintient captifs de l'ennemi. Cette libération, il l'a effectuée en mourant sur la croix. En prenant le fruit de la vigne, qui est rouge, comme le sang qui a été versé, nous voulons nous rappeler que c'est au prix du sang de Jésus que nous avons été rachetés. Alors, si vous croyez cela, vous êtes les bienvenus à la table à laquelle nous sommes tous conviés. Et si vous ne croyez pas cela, si vous ne reconnaissez pas en Jésus votre Seigneur, votre Sauveur, nous vous prions de ne pas prendre les éléments qui passeront devant vous et nous vous invitons simplement à inviter le Seigneur à vous parler, à se révéler à vous. Parce qu'il est fidèle, il est bon. Si vous le lui demandez, il le fera. On va procéder maintenant à la distribution des éléments. Et pour entrer dans ce temps, on va avoir un chant. Et vous êtes invités, si vous le souhaitez, à chanter la première et la quatrième strophe, parce que c'est un dialogue qui s'instaure en fait entre nous et Jésus. Donc nous parlons à Jésus et ensuite sur les strophes 2 et 3, il nous répond. Et donc là, vous êtes invités à écouter ce que Jésus dira par la bouche de notre groupe de louanges ici présents. Ce chant s'appelle « Rédempteur adorable ». Voilà, on peut suivre Fabienne qui fait la voix, je dirais, du peuple, notre voix à nous. Je vous invite à garder les éléments dans vos mains pour qu'on les prenne ensemble.
Thank you.
bien en signe de notre communion avec Dieu et de notre communion aussi les uns avec les autres, je vous propose maintenant de prendre les éléments. À suivre.
Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu
Christ est mort pour nous à la croix, mais il est aussi ressuscité. Et la Bible nous dit que quiconque croit en lui est uni à lui dans sa mort et aussi dans sa résurrection. C'est le sens du baptême. Alors c'est quand même une sacrément bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui pour le monde. C'est une sacrément bonne nouvelle. Et je vous propose simplement qu'on s'en réjouisse, qu'on fasse monter notre reconnaissance au Seigneur dans la prière maintenant pour son amour, pour son sacrifice à la croix et puis pour la joie que nous avons de savoir qu'il est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Vous êtes passé tout à l'heure dans l'obscurité d'abord, vous êtes tombé dans une drôle de salle qui représentait un tombeau vide. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous êtes peut-être demandé ce que c'était que ces caisses avec ce drap. C'est le tombeau vide. Et puis ensuite, vous êtes entré dans la lumière du culte parce que nous sommes faits pour adorer le Seigneur. Eh bien, je vous propose qu'on prenne ce temps d'adoration, de remerciement, de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous.
Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu places devant nous la vie et la mort. Seigneur, aujourd'hui, grâce à ton sacrifice, grâce à la puissance de ta résurrection, nous choisissons la vie et jusque dans l'éternité. Merci Seigneur. Amen. Parce que ton sacrifice, c'est valable aujourd'hui.